Ce matin, c'est le culte d'intégration. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le but, c'est que tout le monde, vous tous, puissiez vous sentir bien dans l'Église et savoir où on va, en savoir plus sur l'Église. Alors, parce qu'on se rend compte qu'on a l'habitude, on a nos habitudes, et puis quand on vient de l'extérieur, c'est difficile d'attraper toutes les habitudes. Donc, c'est un peu le but de ce culte. Et pour cette prédication, il nous semblait bon de revenir sur notre projet d'Église. Quelque chose qui nous unit et qui nous met en mouvement ensemble. Alors, si je parle de projet d'Église, on a un libellé qui nous le rappelle, qui est facile à retenir. Est-ce que vous le connaissez ? N'ayez pas peur, d'ici, je n'entends pas. Des disciples qui font des disciples, etc. Merci Chantal, et puis les autres qui parlaient moins fort que Chantal. Faire des disciples qui font des disciples. Et ça, ce n'est pas un projet qui nous vient comme ça. C'est quelque chose qu'on fonde bibliquement et qu'on reçoit de l'évangile de Matthieu, de ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Alors, je vais relire le texte. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles, mais il s'affiche également. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici comment se termine l'évangile de Matthieu, le premier dans l'ordre dans lequel sont classées nos Bibles. Et c'est le texte sur lequel nous nous fondons pour notre projet d'Église. Et on se souvient dans ce texte des derniers versets, versets 19 et verset 20, « Allez, faites de toute nation des disciples, etc. » Mais il y a d'autres, avant de plonger là-dessus, plonger sur cette mission, j'aimerais quand même relever d'autres éléments dans ce texte. Et le premier qui m'avait frappé, c'est celui-ci. Quelques-uns eurent des doutes. Un mot sur cette rencontre. Jésus est mort, crucifié par les Romains auxquels il avait été livré par les chefs religieux juifs. Il est mort, mais il est ressuscité et il est apparu à ses disciples. Et là, il y a une période de 40 jours pendant lesquels Jésus apparaît à ses disciples, à certains d'entre eux, en divers endroits. Et cette période se termine, au bout de 40 jours, par l'ascension de Jésus qui monte au ciel, à côté du Père, à la droite du Père, comme nous le révèle la Bible. Et donc là, cette rencontre, elle a lieu durant ces 40 jours. Et le texte nous dit que les disciples sont en Galilée. Pourquoi est-ce qu'ils sont en Galilée, au nord, alors que Jésus a été crucifié à Jérusalem, que tout le monde s'y trouvait ? Ils sont en Galilée parce que Jésus les a envoyés là-bas. Il leur a dit « Allez m'attendre en Galilée ». Alors, ils y sont allés. Et donc, les voilà rassemblés sur une montagne. Et là, quelques-uns eurent des doutes. Qu'est-ce que c'est que la nature de ces doutes ? En réfléchissant, je ne pense pas qu'ils aient des doutes sur le fait que ce soit bien Jésus, qu'il soit bien ressuscité, parce que ces doutes-là, ils les ont eus avant. Quand on lit les autres évangiles, on voit qu'il y a eu plusieurs apparitions dès la résurrection, puis plusieurs fois, avec en particulier Thomas qui doutait et qui a pu toucher le Seigneur. Tout ça s'est passé. Donc je pense qu'ils ont intégré la résurrection. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait 3 ans qu'ils suivent Jésus, qu'ils le suivent partout, qu'ils leur donnent les directions au jour le jour. Et ils savent quoi faire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Certains eurent des doutes. La Bible du semeur traduire, ils ne surent que penser. Certains ne savaient pas quoi penser. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils sentent bien qu'il y a quelque chose de différent, que Jésus n'est plus le même, il n'est plus avec eux tout le temps, et ça ne va pas se passer de la même façon. Et à ces doutes, Jésus répond par un ordre, par une mission, par un envoi. Et c'est cette réponse qui est censée calmer leurs doutes. Donc, je pense qu'il faut vraiment prêter attention à cette mission, parce que c'est quelque chose de structurant pour les disciples, quelque chose qui est là pour éteindre leurs doutes, pour éteindre les nôtres également. Pourquoi est-ce que nous venons à l'Église? Pourquoi est-ce que nous suivons Jésus? Est-ce que c'est une histoire d'habitude? Ou est-ce que vraiment il y a un but dans ce que nous faisons et que nous recevons de la part du Seigneur? Quelques-uns eurent des doutes. Avant de plonger sur l'ordre lui-même qui vient éteindre ces doutes, il y a une autre phrase qui m'interpelle, c'est ce que Jésus dit. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et c'est important parce que au départ de la mission, de là où Jésus envoie ses disciples, il y a cette autorité. Cette autorité que Jésus a reçue. Il y a la personne de Jésus. Ce n'est pas une mission qu'on revêt, c'est une mission qui vient de quelqu'un, qui vient de Jésus, et quelqu'un qui a reçu l'autorité. L'autorité sur ses disciples, ceux qui veulent le suivre, et donc qui doivent lui obéir, mais également une autorité plus large, sur le ciel et sur la terre. Et ça, c'est aussi un élément qui vient pour rassurer les disciples, qui vient pour rassurer ceux qui croient en lui. Ils peuvent y aller parce qu'il a reçu toute autorité. Et cette mission va être un succès, non pas parce que les disciples sont forts, mais parce que Jésus a reçu toute autorité. Quelle est donc cette mission? Cette mission, je le disais, on la connaît, c'est celle qui est développée au verset 19 et 20, de faire des gens de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est un mot qui n'est pas forcément très utilisé aujourd'hui. Et de toute façon, la façon dont Jésus voit le disciple n'est pas forcément la même que celle dont le dictionnaire va voir le disciple aujourd'hui. Quand on va regarder dans le dictionnaire, le dictionnaire va nous dire que c'est quelqu'un qui suit un enseignement, qui suit un maître. Et c'est vrai pour les disciples de Jésus. Ils suivent un maître, Jésus. Mais Jésus dit également que le vrai disciple, ce n'est pas seulement celui qui écoute, c'est celui qui met en pratique. Dans le même évangile, l'évangile de Matthieu, il y a ce grand discours célèbre, très important pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, qui est le sermon sur la montagne. 3 chapitres, Matthieu 5, 6 et 7, où Jésus développe le programme de son enseignement. Et à la fin de cet enseignement, Jésus compare l'homme sage et l'homme insensé. Vous vous souvenez la différence qu'il y a entre ces deux hommes, entre l'homme sage et l'homme insensé ? L'homme insensé, le fou, c'est celui qui écoute l'enseignement de Jésus et ne met pas en pratique, alors que l'homme sage écoute l'enseignement de Jésus et le met en pratique. Les deux écoutent l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas ça la différence entre le sage et l'insensé. Celui qui est sage, c'est celui qui met en pratique. Et le disciple n'écoute pas seulement Jésus, mais il le met également en pratique, cet enseignement. Il le met en pratique, mais aussi il le transmet. On le voit ici à travers cet ordre, allez, faites des disciples. Mais on le voit aussi dans l'Évangile. Jésus a envoyé ses disciples pour répandre la bonne nouvelle, pour parler de lui. Donc être disciple, ce n'est pas seulement pour soi, mais c'est rentrer dans l'action de Jésus, entrer dans l'action du Seigneur, de parler de lui, de parler de la bonne nouvelle qu'il y a, le salut en Jésus-Christ. Donc un disciple, quelqu'un qui écoute un enseignement, qui le met en pratique et qui le transmet. Et alors, comment on fait pour faire des disciples ? Quelle est la recette pour faire des disciples ? Eh bien, elle se trouve dans ces versets et ce n'est pas forcément bien rendu dans nos traductions puisque dans nos traductions, on a toute une série d'impératifs. Allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à garder tout ce que j'ai commandé. Mais dans le texte original, dans le grec, il y a un seul impératif. C'est faites des disciples. Et le reste, ce sont des participes. Faites des disciples en allant, en baptisant, en enseignant. Et je pense que on a là la recette pour faire des disciples. Premièrement, allez. Il va falloir aller vers l'autre. Aller pour parler du Seigneur, ne pas rester entre nous. Jésus a envoyé et il va falloir vivre cet envoi. Et cet envoi, il se vit au loin comme auprès. Jésus a bien dit que celui vers qui il faut aller, c'est mon prochain. Et mon prochain, il n'est pas forcément à l'autre bout de la terre. Mon prochain, ça peut être la personne que je croise, même si ce n'est pas lui vers qui j'aimerais aller. Mais c'est là que commence la façon de faire des disciples, en allant. Et ensuite, la deuxième étape, c'est baptiser. Baptiser, c'est-à-dire avoir cet acte dans lequel on prend une décision. On marque sa décision pour suivre le Seigneur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Évangile. Il y a toujours une décision. On ne suit pas le Seigneur par hasard. On ne suit pas le Seigneur parce qu'on a toujours été à l'église, parce que quelqu'un est venu nous voir. On suit le Seigneur parce qu'un jour, on l'a décidé. Et les disciples qui veulent faire des disciples sont accompagnés, sont invités à accompagner ce mouvement et à inviter les autres à prendre eux aussi cette décision qu'on est invité à marquer par le baptême. Et la troisième étape, c'est enseigner. Et là, c'est intéressant la succession des trois. Ce n'est pas aller vers les gens, enseigner-les et ensuite baptiser. Non, on enseigne ceux qui sont baptisés. Parce que faire des disciples, ce n'est pas bourrer le crâne à des gens qui n'en ont pas envie. C'est enseigner des personnes qui sont volontaires, qui veulent suivre Jésus. Et c'est aussi un rappel de ce que, quand on est baptisé, ce n'est pas le point d'arrivée, c'est un point de départ. Le point de départ d'une vie où on se met à l'écoute du Seigneur, où on veut suivre son enseignement, et comme il le dit, ses commandements, pour les mettre en pratique dans notre vie. Donc, je vois trois étapes dans ce texte pour faire des disciples. Aller vers les autres, baptiser ceux qui prennent la décision pour la marquer avec eux et les enseigner. Et du coup, ça nous donne une vision, notre objectif. Des disciples qui font des disciples. Une vision à prendre pour nous, parce que nous sommes issus de ce processus. Nous sommes nous-mêmes des disciples parce que des disciples sont venus nous voir, sont venus vers nous. Ceux qui m'ont entendu parler de ce sujet connaissent cette illustration. C'est pas la Madeleine de Proust, c'est le paquet de chips d'Éric. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Quand j'étais enfant et qu'on partait en pique-nique, on avait toujours un paquet de chips. Et ce paquet de chips me fascinait. Parce que sur le paquet de chips, il y avait une dame qui mangeait un paquet de chips. Et sur le paquet de chips qu'il mangeait, il y avait une dame qui mangeait un paquet de chips. Et sur ce paquet de chips, il y avait une autre dame qui mangeait, et ainsi de suite. Et j'avais beau écarquiller les yeux aussi loin que je regardais, je voyais toujours une dame qui mangeait un paquet de chips, qui mangeait un paquet, avec une dame qui mangeait un paquet de chips, etc. Et c'est pareil avec les disciples que nous sommes. Derrière chacun d'entre nous, il y a quelqu'un qui est venu nous parler et qui nous a parlé du Seigneur. Et derrière lui, il y a quelqu'un qui lui a parlé du Seigneur, et encore quelqu'un, et ainsi de suite. Et si on avait la possibilité de remonter la généalogie, on reviendrait jusqu'aux 11 qui étaient là, sur cette montagne, et qui ont été choisis et enseignés par le Seigneur Jésus. Et s'il y a cette chaîne qui arrive jusqu'à nous, cette mission, c'est la nôtre aussi. C'est la nôtre de la continuer, parce que nous aussi, nous sommes des disciples. Et c'est donc ça, notre projet d'Église, être une communauté en croissance, toujours en croissance. En croissance numérique, avec le désir d'aller vers d'autres, d'élargir le royaume de Dieu, que toujours plus puisse bénéficier de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, d'être réconcilié avec le Seigneur, mais aussi en croissance personnelle. Que chacun d'entre nous puisse apprendre toujours plus à être comme Jésus. Parce que nous sommes nous-mêmes des disciples et nous sommes nous-mêmes en progression. L'Église n'est pas un lieu où on s'occupe les autres et on ne regarde pas ce qui a changé chez nous. Le mouvement est double. Et le point central, c'est le baptême, comme un acte d'engagement clair, celui de ne pas rester dans le flou, mais dire « je veux suivre Jésus, je veux être de ses disciples. » Et ce projet d'Église, nous le recevons comme venant de notre Seigneur, une mission qui vient de lui. Alors comment faire? Parce que quand on vise comme ça, une croissance continue, à la fois en nombre et en qualité, à la fois vers les autres et chez nous, ça donne le vertige. Comment on fait concrètement? Nous souhaitons pour cela utiliser l'Église comme outil. Et j'aimerais citer cet auteur, Christopher Wright, qui écrit « Ce n'est pas tant que Dieu a une mission pour son Église dans le monde, mais plutôt que Dieu a une église pour sa mission dans le monde. La mission n'a pas été faite pour l'église, c'est l'église qui a été faite pour la mission. J'aime beaucoup cette phrase, ce renversement. Je l'aime beaucoup parce que j'y crois fortement. Dieu est au travail dans le monde. Et pour ce travail, il a fait son église. Ce n'est pas une église à qui il s'est demandé qu'est-ce qu'on va leur faire faire. C'est il a un travail pour le bien du monde, pour le débarrasser du péché, et ce depuis les origines. Et pour accomplir ce travail, il a mis en place son église. Qu'est-ce qu'une église ? Une église, c'est un lieu de mélange, un lieu où se côtoient différentes personnes de différents niveaux, un peu comme avec différents cercles concentriques. Et je pique cette image à un autre auteur, Rick Warren, qui voit 5 cercles dans l'église. Et je vous propose de les parcourir ensemble, depuis le plus extérieur jusqu'au centre de l'Église. À l'extérieur de l'Église, c'est la périphérie, c'est la proximité. Et là, il y a nos prochains. Ceux que le Seigneur place à côté de nous et vers qui il nous dit d'aller pour parler. Et si on se rapproche un peu, puisque ces gens-là, c'est des gens avec qui on n'a pas forcément encore de contact, après, il y a ceux qui passent la porte de l'Église, avec qui on rentre en contact et qui peuvent devenir réguliers dans l'Église. Et ceux-là, ils ont une place dans la communauté. On les connaît et on les aime. Et puis, il y a ceux qui veulent s'engager, prendre ce pas du baptême, prendre ce pas de dire « je veux ». Je ne veux pas être seulement régulier, sympathisant, être régulier à l'Église, fidèle, trouver les choses bien, mais non. Je veux en faire partie, me faire baptiser et devenir membre de l'Église. Et comme je le disais, ce n'est pas le point d'arrivée, puisque nous sommes appelés de continuer à grandir et d'aller vers la maturité. Et j'aime beaucoup ce verset, encore dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dit « Venez à moi, mettez-vous à mon école ». C'est le programme pour le disciple, de venir à son école et de rester là pour prendre la maturité. Et puis, il y a au centre de l'Église, le moteur de l'Église, les serviteurs qui ont compris ce à quoi Dieu les appelle et qui sont capables de conduire l'Église. Je ne parle pas que des pasteurs, des anciens, du conseil. Plusieurs comprennent la mission et sont capables d'accompagner. Voilà, une Église, c'est ce mélange avec des gens qui sont chrétiens, d'autres qui ne le sont pas, des gens qui sont mûrs, des gens qui débutent. Et c'est ça que Dieu a voulu. On en parlait avec la course. L'image de la course, une course que nous courons tous ensemble, même si certains viennent de la commencer, quand d'autres courent depuis longtemps. Et donc la question était, comment faire ? Comment faire pour faire des disciples ? Eh bien, si on considère la façon dont est constituée l'Église comme un mélange, je pense qu'on peut avoir 5 mouvements pour nous adresser à chacun de ces grands cercles, à chacune de ces grandes familles de personnes qui fréquentent l'Église. Le premier mouvement, c'est d'inviter. Inviter les personnes à venir, à passer la porte, à venir voir, à s'exposer à ce qui se passe ici. Le deuxième, c'est d'accueillir. Parce que si on invite et qu'on s'arrête là, on ne va pas aller loin. Et je pense que l'accueil est quelque chose qui caractérise l'œuvre de notre Seigneur sur la terre. Tout ce qu'il a vu, il les a accueillis. Il était disponible pour eux, pour leur parler, pour répondre à leurs besoins. Accueillir, comme le Seigneur l'a fait. Le troisième mouvement, c'est baptiser. Quand je parle de baptiser, je ne parle pas uniquement de descendre dans l'eau pour immerger quelqu'un, mais baptiser pour encourager les personnes à prendre une décision, pour leur expliquer à ceux qui souhaitent avancer que c'est par là que ça commence, pour témoigner de la façon dont on l'a fait. Et ensuite, enseigner, et enseigner encore. Ce n'est pas que le travail des prédicateurs ou des responsables de groupes de maison. Enseigner, on peut tous le faire. À partir du moment où on côtoie son frère, sa sœur, qu'on écoute ses questions et qu'on peut lui répondre, écoute, moi quand j'ai vécu ça, j'ai fait ceci. Quand j'ai eu ce doute, j'ai trouvé cette parole dans la Bible. Puis savoir dire aussi, je suis un chrétien en progression comme toi, je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas toutes les réponses qu'on ne peut pas participer à ce mouvement d'enseignement qui nous concerne tous. Et puis, comme cinquième mouvement, envoyer. Lorsque un chrétien a découvert ce à quoi Dieu l'appelait et que l'Église le confirme, eh bien, être prêt à lui donner les moyens pour le faire, voire à l'envoyer pour qu'il parte ailleurs pour une mission spécifique. Envoyer pour qu'il parte et qu'il fasse des disciples qui feront des disciples. Et le but de ce projet, ce n'est pas seulement de faire de notre Église un lieu de mélange, mais un lieu de mouvement. De ce que, en permanence, chacun soit invité à aller toujours plus loin dans sa marche avec le Seigneur. Et du coup, ça m'amène à une question. Et moi ? Et moi dans tout ça, et moi où j'en suis ? Parce que ce projet d'Église, des disciples qui font des disciples, il faut bien le comprendre. Il ne s'agit pas de faire des disciples qui feront des disciples. Il s'agit d'être. Être des disciples qui font des disciples. Je suis moi-même concerné par ce mouvement. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que vous en êtes? C'est une question intéressante à se poser. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps et je vous invite à continuer à grandir. Continuer à avoir cette faim, cette envie pour aller plus loin. Peut-être que vous êtes ici depuis longtemps et que l'étape suivante, c'est de prendre conscience qu'il y a une décision à prendre et de la matérialiser par le baptême. Peut-être que vous êtes venu pour voir et que l'étape pour vous, c'est d'être accueilli et de profiter de ce que l'Église offre. Peu importe finalement. Peu importe parce que ce n'est pas nous qui faisons des disciples, mais c'est le Seigneur. C'est lui qui fait des disciples, lui à qui toute autorité a été confiée, et lui qui nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ce mouvement d'Église, nous voulons le vivre en soumission, en nous inscrivant dans son action. Pas de façon volontariste à essayer d'arracher, que sais-je, des conversions, des personnes qui viennent à à essayer de les produire par nous-mêmes. Non, nous voulons être un outil dans les mains du Seigneur alors qu'il utilise son Église pour faire sa mission. Donc maintenant, si on vous pose la question de quel est le projet d'Église, j'espère que vous vous en souviendrez. Des disciples qui font des disciples. Être une communauté de disciples qui font des disciples. Et pour conclure ce temps, j'aimerais que nous chantions un chant, alors si les musiciens peuvent revenir, un chant que cette Église aime chanter et que je trouve s'associe bien